FranceBleu.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Comme chaque année, le Téléthon est de retour. Deux jours pour faire avancer la recherche et aider les scientifiques à développer des thérapies innovantes pour guérir les maladies rares, priorité de la France lors de sa présidence de l'Union européenne. En 2023, l'événement avait permis de récolter, grâce à la générosité des Français, plus de 93 millions d'euros. Un chiffre élevé à la mesure de l'immense travail à accomplir. Parce que les maladies rares sont très nombreuses, elles frappent en effet un bébé sur 2000 naissances. Et alors que 30 000 nouvelles personnes sont touchées tous les ans en France, près de 50% des patients n'ont pas de diagnostic et plus de 85% d'entre eux ne bénéficient d'aucun traitement curatif spécifique. Or, pour changer la vie de ces malades et de leurs familles, il faut disposer de traitements et pour cela, il faut nommer la maladie et comprendre son mécanisme, un travail titanesque. Parmi les lieux où les scientifiques s'attellent à cette tâche, il y en a un à part, l'Institut Imagine. 1000 personnels de recherche et de santé de 49 nationalités différentes y sont rassemblés autour d'une même cause, apporter des réponses aux enfants touchés par une maladie rare et à leurs familles. Comment sont accueillis ces derniers? Que leur propose-t-on? Quelles recherches y sont menées? Et quelles découvertes y ont eu lieu? Pour en parler, nous sommes avec son directeur, le professeur Stanislas Lyonnais. Stanislas Lyonnais, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous êtes généticien, pédiatre, vous dirigez depuis 2016 l'Institut Imagine, premier pôle européen de recherche, soins et enseignement dédié aux maladies génétiques, un fleuron français, fruit d'un partenariat privé-public qui a été conçu en 2007. Alors déjà, pour prendre la mesure de l'enjeu de cette recherche sur les maladies rares, on va parler d'elle, évidemment, tout est dit dans ce mot « rare ». Pourtant, ça concerne beaucoup d'enfants, donc beaucoup de familles. Je disais un bébé sur 2000, quand même un paradoxe.
Oui, c'est cette espèce de grand écart entre des maladies qui sont parfois exceptionnelles ou quelques familles touchées en France, en Europe, d'où l'intérêt d'actions concertées internationales qui se font très bien maintenant à travers des réseaux ou des bases de données. Et puis l'idée de dire c'est 3 millions de Français. C'est 3 millions de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une maladie rare, très souvent génétique, pas toujours mais très souvent, à peu près 80% des cas. Le président de la campagne Grand Donateur d'Imagine, Henri de Castres, a trouvé un très bon slogan pour ça, en disant les maladies génétiques, c'est des maladies fréquentes, mais qui touchent parfois peu de monde. C'est exactement ça.
Alors, on connaît tous la myopathie, la mucoviscidose, il y a beaucoup, beaucoup de maladies. Qui concernent quels organes? C'est toujours les muscles?
Non, c'est pas toujours les muscles. Les muscles ont été mis en scène avec quel talent et réussite par l'AFM, dans l'idée d'une association qui s'empare de son sujet. Et nous sommes dans le week-end où on peut saluer ça et en parler. Mais ça touche tous les organes. Il est vrai que l'organe où s'exprime le plus de gènes dans notre organisme, le cerveau, est particulièrement sujet à des maladies génétiques. Et donc le neurodéveloppement est peut-être quantitativement en tête de ce triste palmarès. Tous les organes peuvent être touchés, peau, squelette, muscles, reins, etc., système immunitaire, hématologie. J'énumère aussi ce qui fait les forces de l'Institut Imagine, vous l'avez compris.
Je le disais, 8000 maladies, on les connaît toutes aujourd'hui, ces maladies rares?
Si elles sont répertoriées, c'est qu'elles ont un élément de description, donc on les connaît au sens où la médecine a rencontré cette situation. L'élucidation génétique, on est très très loin de cela. On estime que à peu près 3000 maladies génétiques ont une étiquette sur leur description, c'est-à-dire un gène, ou plusieurs gènes d'ailleurs, à l'origine du déficit.
Et juste pour qu'on comprenne bien, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de génétique, les maladies, et ça va permettre de comprendre l'importance et la difficulté de cette recherche, ces maladies génétiques, pour bien comprendre, est-ce qu'on peut réexpliquer l'ADN, les chromosomes, les gènes, pour savoir de quoi on parle quand même?
On parle de maladies dont le mécanisme repose sur une altération du génome. Le génome est récapitulé dans nos chromosomes, qui sont des segments de génome, et à l'intérieur duquel une bobine d'ADN est enroulée extrêmement intimement. Imaginez une petite bobine de fil de cuivre qui on étire et qui est le code génétique. Et l'idée des maladies génétiques, c'est qu'on les repère parce qu'elles obéissent à un modèle génétique, parfois héréditaire, pas toujours, et que par conséquent, on se dit que si on arrive à décoder ce filament prélèvements d'ADN, on pourra identifier une ou plusieurs altérations, une ou plusieurs mutations qui sont à l'origine. Donc il y a plusieurs façons de dire qu'une maladie est génétique. Elle l'est parce qu'elle est familiale, elle est parce qu'on a de bonnes raisons de le penser sur des études d'épidémiologie, sur des études de jumeaux par exemple qui se ressemblent, et puis elle l'est parce qu'on met en évidence une altération génétique qui est l'ultime geste qui permet de signer la signature biologique qui dit oui, c'est vraiment génétique, nous avons trouvé quelque chose qui co-ségrège, c'est le terme consacré, c'est-à-dire qui va avec la maladie.
Alors, il y a 20 ans, quand le génome a été séquencé, on se disait, bon, ben, il y a un gène anormal, on va changer ce gène, et puis on va guérir les maladies. Je caricature, mais pas tant que ça, parce qu'on pensait vraiment que c'était plus simple que la réalité, en fait.
Oui, l'idée est aussi belle et simple qu'elle est extraordinairement difficile à réaliser. Elle décrit la thérapie génique, je devrais dire les thérapies géniques, l'idée de remplacer le gène déficitaire, qui ne marche pas bien, par un gène qui s'y substitue, un gène médicament, un gène de remplacement. C'est la voie royale, si je puis dire. Elle a été pavée de succès par Alain Fischer, le premier directeur d'Imagine, vous citiez à l'Institut, avec Marina Cavazzana, qui l'ont fait dans les déficits immunitaires, avec l'approche extraordinaire de pouvoir prendre le tissu malade, le mettre en dehors du patient, prendre la moelle osseuse, les cellules souches hématopoïétiques, les bricoler au laboratoire en injectant un gène à travers un virus, et alors pouvoir le réinfuser chez le patient, le reperfuser, et espérer que ces cellules modifiées vont l'emporter sur les autres cellules souches de l'enfant pour rétablir son système immunitaire. Marina l'a poussée avec les maladies
du sang.
Pas moi,
l'autre.
L'autre Marina, il y a deux Marina en santé en France.
Que je connais bien, tu salues Marina.
Marina Cavazzana, oui, pardon, je devrais le préciser. Marina Cavazzana l'a poussée dans le terrain inattendu, hardi, audacieux des maladies du sang, des maladies de la globine, et en particulier la drépanocytose. Voilà, une maladie rare qui n'est pas si rare que ça, puisque c'est la maladie génétique
la plus fréquente
au monde, avec des pôles qui correspondent à nos dom-tom, au territoire d'immigration en France, l'Île-de-France, PACA, où elle est la maladie génétique la plus fréquente, et en traitant cette maladie par un remplacement. Et aujourd'hui, très récemment, il y a quelques semaines à peine, un article où elle montre avec des amis américains qu'il est possible de corriger, non pas remplacer, mais de corriger le gène in situ, même système ex vivo, et de bricoler ces cellules, mais cette fois-ci, avec le système des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, de corriger la mutation bêta-6-gluval, bêta-6-val-glu, c'est-à-dire de faire revenir le code génétique à son standard.
Mais c'est exceptionnel. L'Institut Imagine a pour ambition donc d'accélérer la recherche sur ces maladies. Vous dites qu'il a été pensé pour cela. De quelle manière ?
Il faut citer un nom, c'est Claude Grisselli. Claude Grisselli, grand pédiatre, immunologiste, grand...
Je suis mon professeur.
Directeur de l'INSERM, votre professeur, mon maître interne, et donc qui a formé des générations, et qui a toujours une vision, il passe parfois des petits coups de fil, « Stan, as-tu pensé à ça ? Je n'y ai pas pensé. » Je dis « Vous avez raison, Claude, et c'est toujours une très très bonne idée. » Donc il continue d'avoir cette vision de l'Institut. Il a eu la vision d'un endroit qui rassemblait en un même lieu chercheurs, médecins, mais aussi les patients et leurs associations. Et cet endroit est magique, et on est des héritiers d'un cadeau incroyable qu'il a réussi à faire sur le campus de Necker Enfants Malades, où l'université, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, l'INSERM et d'autres fondateurs, et dont l'AFM Téléthon d'ailleurs, et la Fondation des hôpitaux, dirigée aujourd'hui par Brigitte Macron, ainsi que la ville de Paris, se sont alliés pour dire « oui, il y a ici un creuset de science » parfois fondamental, parfois éloigné des sujets médicaux, mais que l'on peut ramener à ces sujets, de médecine de qualité, les centres de référence des maladies génétiques, 33 composent, sont affiliés à Imagine, et d'enseignement, qui permet de dire, il y a peut-être une chance que si une découverte se fait à cet endroit, elle ne soit pas perdue, elle puisse immédiatement être appliquée. Mettons les malades au même endroit, c'est l'idée de Claude.
C'est effectivement ce qui est dit à Imagine, tout part du malade pour lui revenir.
C'est l'idée, pour être très très spécifique, sur le campus Necker, 20 000 m² construit par Bernard Valero et Jean Nouvel en 2014, donc on a 10 ans d'âge, donc c'est un jeune institut sur un campus très ancien de médecine pédiatrique, 220 ans de pédiatrie, c'est là où la pédiatrie a été inventée, 60 ans de recherche de maladies génétiques, thérapie génique, j'en ai parlé, identification de la trisomie 21, tout simplement par Jérôme Lejeune, donc un campus extrêmement connu et qui se dote d'un accélérateur, une sorte de spin-off sur le modèle public-privé, là aussi vision de Claude Grisselli de créer une fondation qui permet de lever des fonds pour accélérer cette recherche, et pas uniquement des fonds publics, et d'avoir le meilleur du public et le meilleur du privé pour pouvoir être en réactivité, en agilité, en réponse immédiate aux meilleurs sujets du jour.
Alors, je disais en vous présentant que vous êtes pédiatre, c'est très important puisque au quotidien, votre métier, c'est de prendre en charge les enfants et leurs familles. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Carnet de santé consacré aux maladies génétiques rares, des maladies qui concernent néanmoins 3 millions de personnes dans notre pays, qui constituent la première cause de mortalité infantile dans les pays développés. Pour en parler, le professeur Stanislas Lyonnais, directeur de l'Institut Imagine, premier pôle européen de recherche, soins et enseignement dédiés aux maladies génétiques. Je le disais, donc vous êtes généticien et pédiatre, votre métier ce sont les enfants malades.
Oui, c'est le nom du campus qui m'a formé, je lui dois tout en médecine et en sciences, et c'est l'idée d'avoir... assez intime à ce campus Necker Enfants Malades et Imagine désormais, de pouvoir avoir la clinique, c'est-à-dire le soin des enfants, l'accueil, la consultation, à deux pas du laboratoire, et de faire ce va-et-vient laboratoire-clinique. Et c'est ce qui est décrit architecturalement à Imagine, où au fond, les médecins voient les chercheurs. Les chercheurs voient les enfants qui sont dans l'atrium, 30 000 enfants et familles qui viennent consulter par an de Necker. Hein, imaginez pas un établissement de santé. Ce sont les enfants de Necker, enfants malades, et des experts pédiatres de ce site qui viennent pour la question de la génétique. Le Necker est un gros campus de consultation externe, comme tout hôpital pédiatrique de pays développés. C'est 400 000 consultations par an, donc c'est extrêmement puissant. 30 000 d'entre elles sont détachées, en quelque sorte, à Imagine, pour nous être confiés, nous, c'est les experts médecins et les scientifiques. Et cet alliage-là, cette alliance, qui se traduit aussi dans des bases de données complexes, multimodales, c'est le terme qu'on utilise pour dire, il y a à la fois de la clinique, du soin, de la médecine et de la recherche, et on arrive dans les bases de données comme en vrai, à avoir des programmes intégrés de recherche et de soins.
Alors, parlons de ces enfants et de leur famille. Quand ils viennent vous voir, passant par Necker, qui vous les adresse? Comment ils sont arrivés jusqu'à Necker, jusqu'à Imagine?
Alors, déjà, leurs origines géographiques, on parle à peu près 60% d'enfants et de familles de l'Île-de-France, 30% de la France et 10% de l'étranger. Ce sont très souvent, presque exclusivement, des avis de deuxième référence. C'est-à-dire que déjà, le réseau du plan national maladies rares, qui est une bénédiction que la France a montée depuis 2004-2005, on en est à la quatrième version qui doit sortir prochainement, a repéré, a adressé au campus Necker, et là, nos collègues spécialistes d'organes, de reins, de cerveau, de cœur, etc., de peau, nous adressent ces enfants pour la question de la génétique et pour un projet de recherche.
Alors souvent, ces parents ont quand même erré avant d'arriver jusque-là. Écoutez le témoignage de la maman de Margot, c'est une petite fille atteinte d'une maladie rare. Elle parle de cette errance vécue avant que le diagnostic ne soit porté à l'Institut Imagine, un témoignage à retrouver sur le site de l'Institut.
Beaucoup de gens ont disparu autour de moi, ça a fait le vide. C'est ce que ça crée très souvent, l'errance de diagnostic. C'est une solitude que ça crée autour de la famille. Et puis, en plus de ça, même les médecins ne me croyaient pas, ils ne trouvaient rien, donc ils ne me croyaient pas. Et ça, c'était très compliqué à supporter et à gérer.
Ça concerne beaucoup de familles, ces errances.
Oui, aujourd'hui, à sortie de l'Institut, et c'est vrai pour d'autres grands instituts français ou européens, le taux d'élucidation diagnostique, c'est-à-dire les dossiers sur lesquels on a pu mettre une étiquette, où il y a une signature biologique, c'est pas plus de la moitié. Alors, ce qui est très important, c'est de dire qu'il y a une dynamique très positive dans ce sens-là, notamment avec ce qu'on appelle le plan France Médecine Génomique, qui a permis de mettre en pratique et au quotidien l'étude complète du génome comme le premier outil de première ligne, avec des panels de gènes aussi, qui ont permis d'incrémenter ce taux de diagnostic qui était, on va dire, 2015, à peu près 20%.
Et qui est passé à 50%.
Et qui est passé à 50%, à peu près 50%. Donc on a doublé les choses, et il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. On sait que simplement en relisant les données de génome, les données d'ADN que nous avons déjà analysées il y a quelques temps, un mois, un an, deux ans, chaque année, c'est 2% de plus de diagnostics parce que les connaissances s'accentuent. Les algorithmes, l'intelligence artificielle sont de plus en plus puissants et nous permettent de trouver un chemin dans le foisonnement incroyable de variants génétiques qui, au fond, masquent les vrais coupables, les vraies mutations. Et c'est un paradoxe difficile à expliquer aux familles et même à nos collègues en consultation ou dans des réunions de médecins. Plus on séquence de l'ADN, plus on a les capacités peu coûteuses, très robotisées et très puissantes de séquencer, c'est-à-dire de lire l'ADN à la recherche d'une mutation, plus l'interprétation est délicate. Au fond, on noie les variants délétères par une multitude de variants banals.
On reviendra sur ces familles pour lesquelles il n'y a pas de diagnostic. Pour celles pour lesquelles vous pouvez porter un diagnostic, ça ne veut pas dire forcément traitement. Pour combien de familles qui ont un diagnostic, vous avez des solutions thérapeutiques à proposer ?
Alors, il faut distinguer ce qui est une solution thérapeutique spécifique, c'est ce dont vous parlez, Marina. Vous avez cité le chiffre tout à l'heure, pas plus de 10%. Donc, c'est 50% de diagnostic au mieux et pas plus de 10% de traitement spécifique. Il y a là aussi quand même une révolution dans la diversité des approches. Les thérapies géniques, je disais, voie royale, incontestable, et il faut s'y attacher, avec des succès dans des domaines sur lesquels vous allez revenir. Mais il y a aussi des découvertes, des illuminations qui viennent d'ailleurs, qui viennent du repositionnement de médicaments déjà existants, qui viennent d'anticorps, qui viennent au fond de la connaissance intime des mécanismes. Tant qu'on n'a pas le gène, il n'y a pas de recherche. Tant qu'il n'y a pas de recherche sur les mécanismes, il n'y a pas de traitement. C'est des conditions successives, en séquence.
Quand aucun diagnostic, donc je le disais, n'est porté, aucun traitement proposé, comment vous accompagnez ces familles? Comment elles réagissent?
C'est un sujet difficile, terrible, mais qui doit être un sujet de courage, parce que c'est avant tout un sujet de courage des familles. Il ne faut pas les laisser tomber. Et donc, il y a toute une thématique qui consiste à les aider à vivre avec l'absence de diagnostic. Dans deux idées, la crainte du vide, le vide qui fait remplacer l'absence de diagnostic par des fantasmes, c'est la faute de la mère, c'est la grossesse, c'est la nutrition, c'est le métabolisme, c'est Tchernobyl, bref, toutes sortes de fadaises, alors qu'on n'a pas encore réellement trouvé la cause. Et deuxièmement, le non-abandon par les médecins qui doivent savoir dire « je ne sais pas », les quatre mots terribles de la médecine, mais savoir le dire et en dire « mais on cherche ». Et on ne vous lâche pas. Et je crois que c'est ce lien qui peut être créé avec ces familles dans l'idée que peut-être un jour ça va arriver est très important. Alors ça ne suffit pas. On vient de créer une chaire qui s'appelle VULCA pour vulnérabilité capacité en partenariat avec l'École normale supérieure et l'École des arts décoratifs, donc des prestigieuses écoles de la montagne Sainte-Geneviève, de la rue d'Ulm, qui se sont associées à nous pour traiter cette question du vivre avec et du vivre sans. Du vivre sans diagnostic, en disant c'est pas une raison pour les lâcher, au contraire, et d'adapter la vie avec le design, avec les arts décoratifs, avec des systèmes de dispositifs qui permettent de mieux vivre, et aussi de s'interroger sur cette période, sur cette difficulté par des sciences humaines et sociales. On a un philosophe en immersion désormais à Imagine qui arpente l'Institut à la recherche de sujets qui pourraient être portés et diffusés un petit peu plus large dans ce domaine de l'errance. Les anglo-saxons disent l'odyssée diagnostique, c'est un beau mot l'odyssée, là c'est un mot terrible, c'est un voyage dont on ne voit pas le port.
Ça veut dire que malgré tout vous tentez toujours quand même de leur proposer quelque chose?
Ne serait-ce que de ne pas les lâcher, ne serait-ce que de dire on se revoit, je ne sais pas vous dire aujourd'hui, mais peut-être que dans un an, en réanalysant les données que nous avons, nous pourrons peut-être. Peut-être que dans deux ans, en ayant croisé vos bases de données avec ce qui est international, nous aurons trouvé. On a des systèmes, vous savez, de bouteilles à la mer, ça s'appelle Gene Matcher. On a la clinique d'un enfant, mais on n'a pas le gène. Et puis il se trouve qu'au Japon, les gens ont le gène et pas tout à fait la même clinique. On fait du gene matching, c'est-à-dire qu'on essaie de croiser par les variations génétiques ou par la clinique des dossiers internationalement. Ce n'est pas la panacée, ça ne marche pas à tous les coups, mais il ne se passe pas un mois sans que ce système-là, qui est un des exemples de ce que vous demandez, donne un match, c'est-à-dire on dit tiens, il y a un autre dossier, c'est plus un, c'est deux, là c'est sûr que c'est génétique et on va avancer ensemble.
Et je vous entends parler international et effectivement ça permet de réunir des données. Est-ce que ça veut dire, ou est-ce que c'est une question idiote, est-ce que ça veut dire que plus la maladie est fréquente et plus le diagnostic est fait ou pas forcément
c'est c'est un peu décorrélé. Je prends l'exemple du plan France Médecine Génomique qui a donné cet élan de la génomique moderne, des tests génétiques de très grande envergure pour les maladies génétiques rares, mais aussi pour les cancers, des cancers rares de l'enfant, mais aussi les cancers fréquents. On a l'impression que les progrès, je caricature un petit peu à gros traits, mais les progrès sont l'effet de levier est beaucoup plus important dans les maladies rares aujourd'hui. Et l'effet de levier est double, puisque l'identification de la cible qui ne marche pas et qui constitue alors une cible thérapeutique est très puissante par rapport à des maladies communes comme le diabète, l'hypertension, nécessairement multifactorielles, où les cohortes sont beaucoup plus écrasantes, bien sûr. Mais les mécanismes sont pas univoques. Là, on a un gène dont une altération va donner un mécanisme délétère qui donne une maladie. Cette petite route, ces petits pavés-là peuvent donner des idées thérapeutiques, parfois inattendues.
On parle justement maintenant des avancées des dernières années qui ont été très importantes. C'est tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Carnet de santé consacré donc aux maladies rares, des maladies très nombreuses mais pour lesquelles la recherche avance pas à pas. Pour en parler, le professeur Stanislas Lyonnais, pédiatre et généticien, directeur de l'Institut Imagine, une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Ludovic Auger et à la vidéo Jordan Fuentes. Vos objectifs sont ambitieux, hein. Vous espérez, vous le dites, dans les prochaines années, avoir un diagnostic pour 80% des enfants et donner accès à un essai clinique à 30% d'entre eux. C'est effectivement, comme vous le dites, pas à pas, il n'y a pas de raison de pas avancer.
Il n'y a pas de raison de pas avancer. On s'était déjà placé cette limite de doubler entre 20-25% de diagnostic et 50%, qui est le mieux qu'on fait aujourd'hui, mais qui est tout à fait réaliste. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire mieux. Juste derrière ou à côté des techniques de séquençage de gènes, des techniques qui sont fondées sur les ARN, ce qu'on appelle le transcriptome, d'autres méthodes sur les marques de chromatine, je passe un petit peu les détails techniques, et puis aussi des méthodes qui vont profondément analyser les combinatoire de gènes. C'est pas toujours un seul gène qui est responsable, mais la combinaison de deux, un crime en réunion en quelque sorte, avec deux, trois coupables, et c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer et à appréhender. Je pense que là aussi, les méthodes de langage large, les algorithmes, l'intelligence artificielle pour faire court, ces méthodes auto-apprenantes devraient pouvoir élucider certaines de ces pans de la médecine et par conséquent reculer c'est-à-dire avancer 60, 70, 80%, pourquoi pas. Et puis, il y a ce qui n'est pas génétique. Cette démarche va nous aider à maman à dire « Eh bien, écoutez, là, vraiment, on a tout fait, on ne sait pas beaucoup plus, il doit y avoir des raisons non génétiques, environnementales, épigénétiques, d'exposition, qu'il ne faut pas nier. Pensez aux embryopathies, à la dépakine, qui sont parfois des pièges diagnostiques, et on pourra toujours essayer de creuser le génome, c'est pas là que se trouve le coupable. »
J'aimerais qu'on revienne sur au moins deux découvertes importantes de ces dernières années. L'une d'elles concerne l'amyotrophie spinale, une maladie dégénérative. Écoutez Mathilde, la maman de Hyacinthe, il a 2 ans. Il a pu bénéficier d'un traitement inédit. Elle en parle à France Inter dans le podcast Le Téléphone Sonne, émission spéciale Téléthon 2020.
On a eu la chance, et une chance inouïe, parce que Hyacinthe est née au moment où il commençait d'exister des traitements pour cette maladie qui est très grave, qui est une maladie mortelle hein, pour les tout-petits. Et en fait, on a eu la chance, quand on a eu le diagnostic, de pouvoir bénéficier d'une thérapie génique. Donc c'est un traitement pour moi fantastique, de l'ordre de la science-fiction. On va aller réparer le problème génétique de l'enfant. On va lui administrer une perfusion qui dure 1 heure. Son gène, en fait, on le fait rentrer par le biais d'un virus qui n'a plus ses propriétés désagréables de virus, on va dire ça, mais qui est capable de rentrer au cœur des cellules. Et on va venir déposer le petit gène manquant à l'enfant. Et du coup, il va être capable tout seul de reproduire cette protéine et de regagner en mouvement et d'aller de mieux en mieux.
C'est vraiment vos meilleurs porte-parole, hein, ça c'est clair.
Oui, c'est
on rappelle ce que c'est que cette maladie?
C'est une maladie qui correspond à la dégénération et la mort à petit feu des motoneurones de la corne antérieure de la moelle, c'est-à-dire le premier neurone moteur. Donc c'est une pathologie périphérique, puisque c'est le neurone qui va innerver les muscles, mais ça se situe dans la moelle épinière. Ces enfants, ça a été très bien dit avec tout le lot d'émotions, dans des types différents, le type 1, sont des enfants qui ne vont jamais se tenir debout et qui mourraient dans la première année de vie de détresse respiratoire. Le type 2, d'enfants qui vont se tenir debout puis perdre la marche et la tenue debout et être en chaise. Et puis des types un peu dégradés de la forme adulte. Toutes ces anomalies sont dues au même gène, identifié en 95, sauf erreur par Anecker d'ailleurs, et avec un soutien puissant du Téléthon par Judith Melki, et qui a montré qu'une altération très commune, qui est quasiment toujours la même, est à l'origine de cette maladie autosomique récessive, c'est-à-dire ce groupe de maladies dans lesquelles l'hérédité est une surprise dramatique et épouvantable, puisque tout le monde va bien dans la famille, et on se trouve avec un enfant qui est atteint de la maladie, et un risque de récurrence de 25% pour toute grossesse. La clé de voûte de la recherche a donc été l'identification du gène, et aussi l'identification, petit détour technique, mais vous allez comprendre son importance, d'un gène copie, d'une sorte d'alias, d'avatar, qui a perdu ses capacités de fabriquer la bonne protéine SMN, et que l'on peut réactiver en le corrigeant. Et donc voilà des stratégies thérapeutiques qui se développent, pas une, mais trois, thérapie génique, modification d'ARN, par ARN, correction, et qui sont aujourd'hui à disposition et qui permettent exactement ce qu'a dit cette maman, c'est-à-dire au moins de transformer un type 1 en type 2 et peut-être un type 2 en type 3, et peut-être beaucoup mieux que cela. Et alors arrive l'idée pour cette maladie qui n'est pas si exceptionnelle que ça, on parle d'un enfant sur 8000, d'un dépistage néonatal à la naissance chez tous les enfants qui est en train de s'installer en France et qui va permettre de dire, avant les tout premiers signes, de dire cet enfant est atteint, c'est une mauvaise nouvelle, mais voilà le traitement.
Effectivement, il y a bien d'autres maladies qui ont pu progresser, comme la mucoviscidose, comme la chondroplasie, le nanisme. Ce que j'aurais à vous dire, c'est que le premier séquençage du génome a eu lieu il y a 20 ans. Depuis, ça a beaucoup évolué. Comment ça a évolué dans votre pratique? Parce qu'on imagine bien qu'à l'époque, vous n'aviez pas grand-chose à proposer aux familles. C'est une façon, du coup, différente d'exercer en se disant peut-être que c'est cette famille-là qui rentre dans mon cabinet, je vais pouvoir lui dire quelque chose de positif.
Ah oui, c'est vraiment hallucinant. Je suis ni très optimiste, ni très sceptique, mais je ne pensais réellement pas voir ce que je viens de vous évoquer pour l'amyotrophie spinale ou encore en génétique ophtalmologique. J'ai repris les consultations génétiques ophtalmologiques de l'Institut depuis le départ de Jocelyne Kaplan et je voyais des patients ce matin, test génétique pour une maladie de Leber, c'est-à-dire des enfants qui naissent aveugles, réponse en quelques semaines, identification du gène, coup de téléphone aux ophtalmologistes, c'est une mutation RPE65, très bien, Stan, je le prends la semaine prochaine pour une thérapie génique dans l'œil droit. C'est hallucinant.
Incroyable.
Alors, ce n'est pas tous. Je ne veux pas que les auditeurs sûr. Disent « ça marche pour tout le monde ». Non, ce n'est pas vrai. Mais ça montre à tout le monde que ça peut marcher.
Je voudrais finir avec les associations de patients, les regroupements de familles grâce à Internet. Tout ça, qui est intégré aussi à votre institut, c'est important pour les familles, pour les chercheurs, pour qui?
C'est important pour tous et ça a profondément changé les pratiques. Je parlais de la chaire Vulca, c'est exactement cette dynamique de patients qui se prennent en compte, et il y a une espèce de renaissance intime qui enlève beaucoup de tabous, quelqu'un parlait de la honte tout à l'heure, ou de ne pas...
Dans l'errance, oui.
Dans l'errance. Ouais. Il y a même presque parfois une espèce de truc un petit peu mythologique, on ne sait pas... Je ne sais pas qui je suis, dit Harry Field en Phèdre. Je ne sais pas qui je ne sais pas d'où je suis malade. Cette idée recèle presque une culpabilité, pas presque, une culpabilité médicale certainement, mais des patients aussi. Les associations de patients, ce mouvement qui a vraiment profondément changé le regard au travers de la table médicale et au travers de la consultation, ont joué un rôle absolument essentiel, dont l'AFM qui a été pilote, et c'est encore une fois le bon week-end pour en parler, dans les pratiques médicales, au-delà même de la réunion de patients identiques, des essais cliniques, des cohortes, et de l'association, ça a été évoqué plusieurs fois, entre un génotype, un typage génétique, et un phénotype, un typage clinique.
Merci infiniment, professeur Lyonnais, pour toutes ces explications absolument passionnantes. Dans la prochaine émission, nous parlerons de l'emprise, emprise amoureuse, professionnelle, amicale, quels en sont les mécanismes, quelles sont les stratégies de manipulation mises en place par le pervers narcissique, comment s'en sortir, se reconstruire, quel est le rôle des proches. Des questions que nous poserons à Anne-Clotilde Ziegler, qui est psychothérapeute.
Vous Vous écoutez France Culture.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale, chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
L'Hyper Weekend Festival revient du 24 au 26 janvier prochain.
De nouveaux artistes rejoignent le programme.
Trois soirées de sessions intimes avec Bilal Hassani, Sopico, Laura Cahen.
Le groupe Terre Noire et son nouvel album, Laurent Garnier en cuisine.
Soirée rap avec Candeur Cyclone, Ziné, suivi de la rencontre entre Nelik et Jade.
Et toujours à l'auditorium, Chili Gonzalez, Georgia Smith et Pierre Lapointe.
Plus d'infos sur hyperweekendfestival.fr.
En partenariat avec le Centre National de la Musique et France Télévisions.
Il est 12h30, France Culture, le journal de la rédaction. François Chagnot, bonjour.
Bonjour à tous. En Syrie, une offensive éclair et une lourde défaite pour le régime de Bachar el-Assad. Alep est tombée aux mains des djihadistes et de leurs alliés. Retour donc sur la plus grande bataille depuis 4 ans dans la région et le rôle de la Turquie qui ne s'y est pas opposée. Le cessez-le-feu au Liban permet aux habitants de retrouver leur ville et leur logement, ou du moins ce qu'il en reste. Reportage dans la ville de Tyr. Plus de 16 millions d'euros de promesses de dons pour la 38e édition du Téléthon. Les scientifiques avancent à grands pas pour battre la maladie emblématique du Téléthon, la myopathie de Duchenne. On en parle avec la présidente du Téléthon. Elle sera l'invitée de ce journal. Et puis enfin, l'équation insoluble de Michel Barnier. Son gouvernement pourrait être censuré dès lundi. Le drapeau des djihadistes et de leurs alliés flotte sur la citadelle millénaire d'Alep. Il n'aura fallu que 3 jours aux rebelles pour prendre le contrôle de la majeure partie de la deuxième ville de Syrie et de dizaines de villages aux alentours. Cette place forte du nord du pays était aux mains du régime de Bachar al-Assad depuis 2016. Elle connaissait un calme relatif depuis l'instauration d'un cessez-le-feu parrainé par la Turquie et la Russie en 2020. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors ce statu quo a donc été renversé en seulement 3 jours.
Oui, 3 jours d'une offensive éclair préparée depuis de longs mois. Offensive menée par les groupes rebelles qui, depuis le cessez-le-feu intervenu en mars 2020, tiennent toujours une partie du nord-ouest de la Syrie, principalement la poche d'Idlib, d'où ils ont lancé leur attaque. Cette offensive réveille le conflit dévastateur déclenché en Syrie en 2011, qui a fait 500 000 de morts et des millions de réfugiés. Le régime de Bachar al-Assad avait repris le contrôle d'une grande partie du pays en 2015, grâce au soutien intensif de la aviation russe, reconquête parachevée et symbolisée par la reprise d'Alep en 2016. Alep, ville stratégique et ville martyre détruite à l'époque par les raids aériens russes. Des raids qui ont repris la nuit dernière pour la première fois depuis 8 ans.
Alors pourquoi cette offensive maintenant ?
Alors d'abord parce que le régime syrien a baissé la garde au vu du calme précaire instauré par le cessez-le-feu de 2020. Et puis les groupes rebelles ont vu dans le contexte régional une opportunité d'attaquer. Les grands alliés de Bachar al-Assad sont en effet affaiblis. La Russie d'abord focalisée sur le conflit en Ukraine où elle concentre l'essentiel de ses forces. Et puis l'Iran, l'autre grand parrain du régime de Damas, fragilisé face à Israël. Tout comme ses mandataires en Syrie, les gardiens de la révolution qui ont essuyé des frappes israéliennes ces dernières semaines. Mais aussi le Hezbollah libanais, lui aussi soutien traditionnel de Bachar al-Assad. Très affaibli, comme vous le savez, par sa guerre contre Israël.
Merci Louise Baudet. Alors derrière cette offensive, on retrouve plusieurs groupes parrainés par Ankara. Cet assaut et donc la prise d'Alep n'a donc pas pu se faire sans le soutien tacite de la Turquie, Anand Loer.
La Turquie n'est pas directement impliquée dans l'offensive en cours, mais il est à peu près clair qu'elle y a apporté son soutien tacite. Elle qui avait dénoncé les attaques récentes du régime syrien et de son allié russe sur la province d'Idleb. Des attaques décrites comme autant de violations des accords conclus entre la Turquie, la Russie et l'Iran dans le cadre du processus dit d'Astana. Même si elles ne sont pas majoritaires, certaines formations de rebelles syriens proches d'Ankara participent d'ailleurs à l'offensive aux côtés du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham. Ankara semble considérer l'offensive qui met en lumière les faiblesses du régime de Damas comme un moyen de pression sur Bachar el-Assad. Le président turc Erdogan cherche depuis 2 ans, en vain, à négocier une normalisation des relations turco-syriennes, mais refuse d'envisager le retrait des troupes turques du nord de la Syrie, une condition jusqu'ici du régime syrien. L'un des buts d'Ankara est d'organiser le retour des quelques 3 millions de réfugiés qu'elle accueille sur son territoire. Enfin, la Turquie n'est pas mécontente de constater sur le terrain la baisse de la marge de manœuvre de la Russie, d'une part, de l'Iran et du Hezbollah, d'autre part. Accaparés par d'autres fronts, les uns et les autres ne sont pas venus à la rescousse du régime de Damas. Une perte d'influence dont la Turquie espère bénéficier, elle qui ne cache pas son intention de mener une nouvelle offensive dans le nord de la Syrie contre les forces kurdes.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénonce 300 morts lors de ses combats les plus intenses depuis 2020. Cet assaut fulgurant en Syrie a été lancé le jour même où l'armée israélienne et le Hezbollah signaient une trêve de 2 mois au Liban. 3 jours plus tard, le cessez-le-feu vacille déjà. Le gouvernement libanais signale 3 blessés dans une frappe israélienne dans le sud du pays ce matin. Ce matin également, l'armée de l'État hébreu a frappé un site du Hezbollah à la frontière entre le Liban et la Syrie. Plus loin, à 700 km à l'ouest, dans la ville côtière de Tyr, la vie reprend prudemment depuis le début de cette trêve très attendue par les habitants. Alors des milliers de Libanais tentent de se réapproprier leur ville où tout ou presque est à reconstruire, Arthur Saharnin.
Dans les rues de Tyr, des voisins fêtent leur retrouvaille depuis qu'ils ont fui les bombardements. Ibrahim découvre que son immeuble est l'un des seuls à tenir debout dans sa rue.
Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. L'immeuble de nos voisins s'est effondré et tous les câbles ont été arrachés. On rapporte des gallons d'eau pour se laver.
Dans la liste des pénuries, difficile aussi de trouver de la nourriture pour tout le monde. Dans la vieille ville, Zain vient de rouvrir son salon de barbier. Des hommes font la queue pour se raser enfin après 2 mois de déplacement forcé. L'un des clients s'interroge. Doit-il reconstruire sa maison alors que la guerre pourrait reprendre ? Sur un poste de télévision, les images d'un bombardement israélien à Saïda rappellent que la trêve ne tient qu'à un fil. L'armée israélienne a exigé un couvre-feu à 17h au sud du Liban. Ibrahim, lui, préfère l'ignorer et souhaite revoir la mer cette nuit. C'est la première fois qu'il la contemple sans le bruit des drones et des bombardements. Au loin, quelques petits points lumineux.
Ce sont des hommes partis chercher des poissons. Certains nagent seuls avec une lampe frontale. C'est leur première fois depuis la guerre. Ils doivent travailler car ils n'ont plus de revenus depuis 2 mois. Demain matin, je leur achèterai des poissons.
2 pêcheurs ont été tués ici, juste avant le cessez-le-feu. Dans la ville, où certaines ruines sont encore fumantes, les traces et les traumatismes de la guerre sont partout. La reconstruction s'annonce longue, le long de la corniche. Des centaines d'arrivants dorment encore dans leur voiture.
Un reportage de notre correspondant au Liban, Arthur Saharnin. C'était encore impensable il y a quelques semaines. Volodymyr Zelensky se dit pour la première fois prêt à faire des concessions pour obtenir la paix. Le président ukrainien souhaite placer les territoires contrôlés par Kiev sous la protection de l'OTAN avant de récupérer à terme et par des moyens diplomatiques les 20% du pays conquis par la Russie. C'est le seul moyen, selon le président ukrainien, de mettre fin à, je cite, la phase chaude de la guerre. 107 manifestants pro-européens ont été arrêtés en Géorgie. Hier soir, le gouvernement a déclenché ses mobilisations en déclarant repousser jusqu'à 2028 toute négociation d'intégration dans l'Union européenne. Le pays du Caucase traverse une crise post-électorale depuis le scrutin législatif du 26 octobre dernier. Officiellement, ce scrutin a été remporté par le parti pro-russe Rêve géorgien, mais l'opposition et des observateurs internationaux dénoncent une élection truquée. 16 079 204 €, c'était à midi le montant des promesses de dons pour le Téléthon. La 38e édition de l'événement caritatif a commencé hier soir sur France 2 en partenariat avec Radio France. Et pour en parler, nous recevons la présidente du Téléthon et de l'Association française contre les myopathies. Bonjour Laurence Thiénot-Herman.
Bonjour.
Alors, le combat originel du Téléthon et le vôtre, très personnel aussi, c'est la lutte contre la myopathie de Duchenne. Alors, c'est une maladie génétique qui détruit les muscles et entraîne la mort souvent avant 30 ans. On la disait incurable, mais il y a un espoir aujourd'hui.
Oui, il y a un espoir aujourd'hui. Cet espoir, il est incarné par l'histoire de Sacha et de sa famille. Sacha a pu bénéficier d'un candidat médicament dans le cadre d'un essai, dont Généthon, qui est un des laboratoires du Téléthon, est promoteur. Et alors que Sacha a été traité il y a tout juste 2 ans, puisque c'était en décembre 2022, on voit aujourd'hui Sacha qui a recouvré des forces, qui arrive à monter les escaliers, qui arrive, lorsqu'il est assis par terre, à se relever très très vite. C'est vraiment pour nous, famille, c'est très très puissant. C'est un moment tellement chargé d'émotions parce que cette maladie, comme vous le disiez à juste titre, c'est une maladie très emblématique. C'est pour ça que Bernard Baratteau est à l'origine du premier Téléthon, parce que concerné par la myopathie du chêne, la première présidente de l'association aussi, moi-même. Donc, on nous disait pour cette maladie incurable. Et on nous disait, seule l'évolution tranchera. Rien du tout. Premier gène, le gène découvert en 86, premier téléthon en 87, parce que le gène venait d'être découvert. Et puis, il a fallu un temps extrêmement long de recherche. Il a fallu des centaines de chercheurs dédiés notamment à cette maladie. Et puis, aujourd'hui, en effet, une avancée extraordinaire.
Alors, en quoi consiste, en bref, dans la mesure du possible, ce nouveau traitement ?
Alors, ce nouveau traitement, c'est une thérapie génique. Tout à l'heure, sur votre antenne, on entendait le professeur Stanislas Yonet en parler. Donc, c'est une thérapie génique. Alors, il faut savoir que dans cette maladie, la myopathie du chêne, maladie très complexe, le gène qui est à l'origine de la maladie, c'est le plus long gène que l'on connaisse. Le plus long gène dans les maladies génétiques. Donc, pour aller réparer le gène à son origine, il faut prendre un vecteur, donc un virus qu'on débarrasse des propriétés pathogènes, à l'intérieur duquel on va mettre une version raccourcie du gène, puisque comme il est tellement long, on ne peut pas le mettre dans un vecteur qui ne peut pas contenir la totalité. Donc c'est une version raccourcie.
Et ça a été le grand défi, justement. D'intégrer ce remède au sein d'un véhicule, trouver le véhicule qui permettait de
transporter. Ouais. Alors que 93, on savait le faire chez les souris. Donc vous imaginez, 93, donc 30 ans qui se sont passés. Ensuite, en effet, il fallait guérir les chiens qui ont exactement la même maladie que les enfants. Ce qui s'est passé dans les années 2015. Et puis, maintenant, on est chez l'homme, chez les enfants, avec des résultats extraordinaires. Alors, extraordinaires chez quelques enfants qui ont été traités à la dose thérapeutique, une injection, puisque la thérapie génique, c'est ça, c'est one shot, c'est une injection. Maintenant, il faut pouvoir le reproduire chez des dizaines d'enfants. Et ça demande évidemment beaucoup de moyens, d'argent.
Et c'est tout l'enjeu. Combien justement ça coûterait de détendre cette expérimentation, ces traitements sur une soixantaine d'enfants, il me semble ?
Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est donc sur cette phase 1-2. Et très très vite, évidemment, les experts regardent, calculent, designent l'essai clinique dans sa phase suivante. Donc ce qui a été fait pour la phase qu'on appelle pivotale. Donc on sait qu'il faudra... Il faudrait, parce que si on n'a pas les moyens, c'est le sujet, inclure 64 enfants dans les deux années qui viennent, pour ensuite espérer, fin 2027, début 2028, avoir une autorisation pour le plus grand nombre, évidemment, d'enfants concernés. Donc là, ça veut dire 115 à 120 millions d'euros pour les trois années qui viennent, rien que pour cet essai, sachant que le Téléthon actuellement soutient pas seulement un ou deux essais, mais 40 essais chez l'homme dans des maladies très différentes, plus d'une trentaine de maladies rares.
Ce qu'il faut dire, c'est que ces maladies rares et puis aussi des maladies très fréquentes, qui un des objectifs et un des combats du Téléthon aujourd'hui. Dernière chose, l'an dernier, c'était 93 millions d'euros pour le Téléthon.
Chiffre final au 28 février, puisqu'en fait, il y a le compteur final, donc en fin d'émission.
Évidemment,
un
vous
peu
comptez
plus
faire
80.
Mieux. On est à peu près à 16 millions à l'heure où on se parle. C'est encourageant. On va dans le bon sens.
C'est encourageant. Il faut savoir que le Téléthon 2024 a lieu à des dates exceptionnelles, puisque c'est fin novembre. Donc c'est vrai qu'hier soir, c'était, on va dire, un début de Téléthon pour lequel il fallait... Je crois que la France entière prenne connaissance de ces résultats extraordinaires dont collectivement on est à l'origine. Et aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que tout se joue dans tous les sens du terme, aujourd'hui, je suis sûre qu'il va y avoir cette belle dynamique, et sur le terrain bien sûr, et sur internet téléthon.fr et au téléphone 3637.
Bien sûr, merci,
merci à vous.
Laurence Thiennot-Herman, présidente du Téléthon et de l'Association française contre les myopathies, et merci à Louise Morfoise pour la préparation de cet entretien. Le compte à rebours tourne. Après une concession sur l'électricité, un geste sur l'immigration, Marine Le Pen menace toujours de renverser Michel Barnier s'il ne répond pas à ses autres exigences d'ici lundi. Alors que le RN vote la motion de censure que la gauche devrait déposer lors de l'examen du budget de la sécurité sociale lundi ou non, Michel Barnier fait dans tous les cas face à une équation insoluble, selon le politologue et chercheur au CEVIPOF Bruno Cotresse.
Au fond, on s'est retrouvé au cours des dernières semaines dans la mise en place d'une sorte d'étau progressivement sur Michel Barnier. D'un côté, le Rassemblement national, s'est mis à dire de plus en plus. On va sans doute censurer sur des questions de pouvoir d'achat en particulier. Donc, d'une certaine manière, à force de le dire, le Rassemblement national, vis-à-vis de son électorat, vis-à-vis de son image dans l'opinion, s'est mis dans une situation où lui-même, il lui est difficile d'échapper à cette décision. Michel Barnier, dans un premier temps, a dit « j'écoute », a donné le sentiment à ses interlocuteurs qui ne faisaient pas de concessions pour, en fin de compte, faire un certain nombre de concessions. Mais en même temps, du coup, ça introduit aussi un élément dans l'opinion qui est « mais au fond, si la situation est si grave que ça, alors pourquoi on fait ces concessions ? Et si ces concessions étaient possibles, pourquoi on a un tel blocage politique et pourquoi on n'a pas donné aux oppositions le gage que, eh bien, ils avaient marqué des points dans la discussion et qu'on s'accordait à reconnaître qu'ils étaient porteurs de bonnes idées. » Donc voilà, on a le sentiment pour le moment de Michel Barnier qui est un peu perdant sur les deux tableaux.
Bruno Cotrès au micro de Rosalie Lafarge. Y aura-t-il des trains pour les fêtes de fin d'année ? Un accord sur les salaires a été validé hier soir après la signature de deux syndicats de la SNCF sur quatre, la CFDT et l'UNSA acceptent donc la proposition de la direction d'augmenter les salaires de 2,2% en 2025. Mais pour l'instant, le préavis de grève est maintenu pour le 11 décembre. Grève contre le démantèlement de Fret SNCF et l'ouverture à la concurrence. La météo éclaircie, grand soleil sur une grande moitié est du pays, entre la Moselle, la Côte Basque et la Corse, temps couvert mais sans pluie de la Charente aux Côtes du Nord et sur la Bretagne. Il fait entre 2 et 6 degrés dans le Grand Est, 8 à Paris, 15 à Brest et Perpignan et jusqu'à 20 à Biarritz.
Vous écoutez France Culture.
En direct et en public, une ou un artiste compose avec nous le programme de l'émission pour mieux pénétrer son univers avec ses amis, partenaires de création, mais aussi en le confrontant à d'autres imaginaires avec des artistes de toutes disciplines.
Arnaud Laporte.
Entre ces différents moments, le live musique, le live parole et en fin d'émission, l'avant-scène par Aurélie Charron.
Comme un samedi, ce samedi à 18h10 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Et si l'incendie de Notre-Dame avait ranimé les personnages du roman de Victor Hugo ? Quasimodo est accusé d'avoir mis le feu à sa cathédrale. Un procès plein de rebondissements.
Tui Jesus Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc. Qu'est-ce que c'est que cette foire dans mon église ?
Le procès de Quasimodo, de Maëlys Bessery et Hélène Laurent, réalisation Tidiane Tiang. Fiction en son immersif à écouter au casque.
Midi 46 sur France Culture, vous retrouvez Sens Politique avec Astrid de Vilaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître une invitée pour décrypter avec elle son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invitée appartient à un gouvernement en sursis ou en suspens. En septembre dernier, alors qu'elle est en train de déballer ses cartons à Londres pour un nouveau poste de préfète à l'immigration auprès de l'ambassadeur, elle reçoit un appel de Michel Barnier. Il faut rentrer à Paris, mais rien n'est encore conclu. Les négociations sont âpres avec la Macronie. Qu'est-elle donc allée faire dans cette galère ? Cette ancienne proche de Jean-Louis Borloo, passée par l'UMP, devenue préfète de la Corrèze après avoir dirigé l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, juste après Jeannette Bougrabe. Est-ce Nicolas Sarkozy, dont elle est proche, qui lui a conseillé d'y aller, comme il l'avait fait en 2017 pour un autre de ses amis, Gérald Darmanin, qu'ils ont en commun ? C'est lui, ministre de l'Intérieur, qui a soufflé son nom à Emmanuel Macron pour le poste de préfète qu'elle obtient en plein Covid et jusqu'en 2022. Porte-parole adjointe de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2011, elle se présente aux législatives dans la foulée à Roubaix dans le Nord. Échec. Entre-temps, des jobs dans le privé, souvent en lien avec l'environnement, Suez, Veolia, Transdev, dans la lignée de la start-up qu'elle a créée en 1999. Elle a grandi en Allemagne et dans des villes de garnison au gré de la carrière de son père, militaire de l'armée française et harki. Aujourd'hui, elle est secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour Salima Saha.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir.
Et merci à vous de nous écouter comme chaque samedi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Serez-vous encore secrétaire d'État la semaine prochaine ?
Écoutez, on verra la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, je le suis. Je suis secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et je suis au travail. On vient de passer une semaine importante. Le 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, ça a été une semaine importante pour les associations, pour les acteurs de terrain, les collectivités locales et pour l'État, bien entendu. Et cette semaine a été une semaine pour moi extrêmement riche et active.
En effet, Michel Barnier d'ailleurs a annoncé des mesures pour cette cause que vous défendez depuis l'Hôtel Dieu à Paris, dont une qui était assez attendue, une maison des femmes par département en 2025. Il y en a actuellement 56. Il en faut donc 45 de plus en un an. Vous avez chiffré ce budget, Salima Sarr?
Alors, en fait, il y en a plus que 46. On en est à presque 90.
Il y en a 56, j'ai vu.
Il y en a presque 90.
Ah, donc c'est quasiment fait.
C'est pas quasiment fait parce qu'il y en a peut-être plusieurs dans certains départements. Mais l'idée, c'est vraiment ce maillage territorial, comme on dit, c'est-à-dire de répondre aux besoins des victimes sur l'ensemble du territoire français. Moi, j'ai fait un déplacement dans les zones rurales et je suis retournée dans le département de la Corrèze, qui me tient à cœur, puisque c'est un département dans lequel j'ai été préfète pendant 2 ans. Et là-bas, il y a une maison des femmes et vous voyez, c'était assez récent puisque j'ai participé à l'ouverture de cette maison des femmes. Mais donc, dans l'ensemble des départements, nous avons besoin, en effet, d'ouvrir ces maisons des femmes qui sont adossées à des établissements de santé.
Est-ce que vous l'avez chiffré, ce budget, Salima Sarr?
Alors, le budget, aujourd'hui, c'est un budget qui est en hausse de 10%. Et c'est un budget sur le secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais les maisons de santé, elles sont essentiellement financées par le budget du ministère de la Santé. Et donc, ça fait partie, en effet, du budget du ministère de la Santé d'ouvrir ces maisons des femmes.
Sauf que si le gouvernement tombe, et j'y reviens, puisqu'il y a vraisemblablement une menace sérieuse de motion de censure, l'instabilité politique ferait que, si ça se trouve, on n'aura pas ces crédits-là.
Écoutez, on verra la semaine prochaine. Moi, je souhaite que le budget soit voté et qu'on puisse mener à bien l'ensemble de ces projets. C'est important, en effet, de revenir sur ce sujet, puisque de quoi on parle? On parle de responsabilité. On parle de stabilité du pays et on parle, en effet, de pouvoir mener les actions qui sont attendues par les Français et les Françaises. Si le budget n'est pas voté, oui, ça va retarder tout un tas de projets et ça veut dire qu'on répond plus aux besoins, en fait, des femmes et l'ensemble des citoyens sur le terrain.
Est-ce que Michel Barnier a bien négocié le budget avec les oppositions?
Michel Barnier a employé une méthode de dialogue. Il a dialogué avec l'ensemble des partis. Mais c'est vrai que c'est la première fois, en fait, dans la Ve République, qu'on se trouve dans cette situation. On a une Assemblée nationale complètement fracturée. Nous n'avons pas de majorité. Donc, cette disposition, en fait, c'est inédit. C'est une situation inédite. Et donc, il discute, il dialogue avec l'ensemble et on verra le résultat la semaine prochaine.
Il dialogue avec l'ensemble, sauf que ce n'est pas du tout l'avis du Parti Socialiste qui répète que Michel Barnier n'a repris aucun de leurs amendements, alors qu'en revanche, il a donné 2 points, au moins 2 mesures fondamentales hier au Rassemblement National.
Michel Barnier a discuté avec l'ensemble des forces politiques. Ensuite, chaque force politique est un peu dans une forme de posture. Justement, c'est un peu la scène politique. Et moi, je le déplore parce qu'en fait, aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent une stabilité. Ils attendent des responsables politiques de mener des projets, de faire tourner le pays, si on peut dire, et de faire en sorte qu'on puisse répondre à leurs besoins. Ils sont inquiets sur leur avenir, ils sont inquiets sur à peu près tous les sujets. Et le rôle des responsables politiques, eh ben, c'est bien d'être responsable. C'est justement d'être lucide sur la situation. Et si le budget n'est pas voté la semaine prochaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier budget de l'État, ça sera de payer la dette. Vous voyez, et de pas mettre de l'argent sur l'éducation, sur les besoins en fait qui sont importants. Donc moi j'appelle les responsables et ceux qui sont à l'Assemblée nationale, donc les parlementaires, à être responsables.
À voter ce budget même s'ils sont dans l'opposition ou à ne pas voter la censure?
Écoutez, ça, chacun fera ce qu'il entend, mais en tous les cas, à faire en sorte qu'à la fin de cette année, on ait un budget pour gérer la France et répondre aux besoins des Français.
Marine Le Pen explique dans les colonnes du Monde cette semaine que ça ne suffit pas. Est-ce qu'il faut qu'il aille plus loin, Michel Barnier, jusqu'à, par exemple, aller sur revenir sur la désindexation des retraites?
Les discussions sont en cours. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Le Parlement a eu le temps de discuter. Le texte est passé au Sénat. Donc maintenant, il reste quelques jours. Le verdict, ce sera la semaine prochaine.
Il a encore fait une concession, Michel Barnier, la proportionnelle, un texte au printemps. Vous, la gaulliste, êtes-vous à l'aise avec cette idée?
La proportionnelle, c'est une demande qui est assez, je dirais, générale aujourd'hui. Elle est demandée par beaucoup de monde. Alors peut-être que, en effet, ça vaut le coup, en tous les cas, d'étudier la question et de se dire ben, pourquoi pas. Regardons un peu comment on peut fonctionner. Mais qui dit proportionnelle dit aussi savoir travailler tous ensemble et en consensus. Et là, j'ai l'impression qu'on a encore des progrès à faire en France.
Vous n'êtes pas opposé donc?
Moi, je suis jamais opposée aux nouvelles idées. Je trouve que tout se discute et il faut regarder les avantages et les inconvénients, mesurer et décider.
Okay. Bonjour.
La fin d'un parcours éprouvant. Trop épuisés pour répondre aux médias après plus de 3000 km de voyage, ces 25 Ukrainiens sont les premiers réfugiés accueillis par les services de l'État en Corrèze. Au programme ce soir, un repas chaud et une visite médicale avant leur installation.
Il faut comprendre que ce sont des femmes et des enfants qui traversent un moment très difficile, qui ont fait un très long trajet. Et demain, ils seront un peu chouchoutés, on va essayer de leur changer un peu les idées. Il y a des randonnées, il y a des activités pour les enfants qui vont être mises à disposition. Mais ce soir, c'est un bon repas chaud, c'est une chambre confortable. Ils se retrouvent en famille, ils ont une chambre par famille. Donc ils retrouvent un petit cocon et on essaye de les accueillir le plus chaleureusement possible et dans les meilleures conditions.
Dès demain, les familles seront prises en charge par une association pour régulariser leur situation administrative. Mais pour ce soir, ils pourront se reposer dans ces chambres habituellement réservées aux vacanciers.
C'est votre voix qu'on a entendue, Salima Saa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, le 18 mars 2022. À l'époque, vous êtes préfète de la Corrèze. C'est un reportage de France 3 Brive. Ça vous émeut d'entendre
ça? Oui, beaucoup. Mais beaucoup parce que ce sont des moments poignants. Je me souviens très très bien de ce moment. Il était minuit à peu près quand on a accueilli ces personnes. Et je peux vous dire qu'elles étaient assez... on avait vraiment besoin de les réconforter. Parce que ce sont des personnes qui avaient fait plusieurs jours de trajet pour quitter l'Ukraine où elle s'est quand même bombardée. Elles arrivent en région parisienne. Ensuite, on les met dans des bus, on les répartit sur des territoires. Elles traversent la France. Elles savent pas où elles arrivent. Et elles arrivent la nuit, à minuit, en Corrèze. Elles traversent des forêts. En fait, c'est ça qui se passe. Elles se demandent vraiment où elles arrivent. Et on voit des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap qui descendent de ce bus et qui s'interrogent. Et c'était important pour nous de les accueillir chaleureusement. Vraiment, ce moment, c'était quelque chose de poignant. Et j'ai vécu des choses comme ça quand j'étais préfète de la Corrèze. Et vous voyez, de vous en parler, ça m'émeut encore parce que c'est de l'humanité. Et j'ai trouvé que ce rôle était un rôle vraiment essentiel. J'ai vraiment beaucoup aimé cette mission de préfète puisque vous êtes là au service de la population. Et là, accueillir des gens qui se sauvent d'un pays en guerre. Et vraiment, on a eu une structure d'accueil et toute une équipe qui les a vraiment... On avait des interprètes également qui les a accueillis. Il y avait des enfants. Et comme je le dis, on a organisé des activités le lendemain en plein air pour un peu... Qui se sentent bien et qui se sentent vraiment accueillis par les Corréziens.
Diriez-vous, Salima Saa, qu'il y a un deux poids deux mesures entre les réfugiés venus d'Ukraine et tous les autres venus d'Afrique ou du Proche et Moyen-Orient qu'on appelle plus souvent les migrants?
Alors, il se trouve qu'en Corrèze, on accueillait également beaucoup de jeunes, essentiellement des jeunes hommes d'ailleurs, hein, venus d'Afrique. Nous avions des centres et on les accueillait dans le nord de la Corrèze. Il y a plusieurs centres où il y a pas mal de migrants qui sont accueillis dans de très bonnes conditions et qui travaillent. Et qui travaillent, parce que la Corrèze, en fait, c'est un département où il y a beaucoup de travail et ils sont vraiment, reconnu. Quand je suis allée dans certaines entreprises, elle me dit, au moins, ce sont des gens courageux. Si vous voulez, ils ont vécu, ils ont traversé, ils ont fait des choses, ils ont un parcours de vie qui est vraiment difficile. Donc, quand ils arrivent, on a des structures d'accueil en France, on les accompagne et on accompagne en plus ceux qui souhaitent travailler et on les accompagne bien.
Un portrait qu'a fait de vous Le Point en novembre dernier raconte que c'est Gérald Darmanin qui souffle votre nom au président de la République pour être préfète, il est ministre de l'Intérieur. À l'époque, vous êtes cadre dirigeante chez Suez et vous, je cite, « tombé de votre chaise ».
Oui, alors Gérald Darmanin, c'est quelqu'un, c'est un ami déjà, et c'est quelqu'un que j'admire par son parcours et on a quelques points communs. Et vraiment, je partage beaucoup de choses avec lui. En effet, c'est lui qui m'a appelé et je dis souvent, ce sera celui qui aura changé ma vie radicalement, puisque passer de cadre dirigeant d'un groupe industriel à préfète de la République, c'était un véritable honneur. Et il m'a appelé et il m'a dit, je sais que tu as le sens de l'État, que tu aimes ton pays, je te propose de devenir préfète de la République. C'était vraiment un grand honneur. En effet, je suis tombée de ma chaise parce que je m'y attendais pas du tout. Et je me souviens très bien, j'étais dans le train, en déplacement professionnel. Et vraiment, ça reste que je lui suis très reconnaissante.
Et il ajoute, selon la citation du Point, « Je veux montrer qu'on peut s'appeler Salima et devenir préfète ».
Il a utilisé les mots qu'il fallait pour me convaincre. Je n'avais pas besoin d'être convaincue, mais quand même, j'étais dans une autre situation. Donc, en effet, il me dit, je sais que tu aimes ton pays, je sais que tu aimes servir. Et je veux montrer, en effet, que quand on s'appelle Salima, qu'on n'a pas fait l'ENA, qu'on vient du privé, on peut réussir sur ses missions. Il croit au rôle modèle, moi aussi. Ce sont des choses qu'on partage tous les deux. On partage énormément de valeurs communes. Et c'était l'occasion, et je lui ai dit, j'y vais, et je te remercie beaucoup.
Que retenez-vous de cette expérience de préfète ?
Alors moi, j'ai été nommée préfète pendant cette période de Covid, donc c'est quand même assez particulier. Eh bien, j'en retiens plein de choses. En fait, je me suis sentie vraiment utile. Si vous voulez, quand vous êtes préfet pendant cette période de Covid, ça veut dire que vous êtes au contact de la population, vous représentez l'État. Vous savez, on a mis en place la vaccination, le plan de relance, on a aidé les entreprises à faire face, on a aidé la population à faire face. Et c'est un rôle vraiment essentiel et je pense que ce réseau de préfets en France, c'est quelque chose d'exceptionnel et de particulier, mais surtout d'extrêmement efficace. Ça permet vraiment de gérer des crises, de gérer le quotidien. Et ce que je retiens, c'est que c'est une mission passionnante. C'est une mission extrêmement variée. Je pense que c'est le métier le plus varié que j'ai connu. Dans la même journée, on traite une diversité de sujets qui est impressionnante.
En 2011, vous succédez, on remonte un petit peu en arrière, vous succédez à Jeannette Bougrab, je le disais en introduction, à la présidence d'une agence nationale qui n'existe plus, qui s'appelait l'ACCÉ, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances. Vous y restez un an. Avez-vous la sensation, Salima Saad, d'avoir pu améliorer